BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good morning business. Sandra Gandoin.
Il est presque 7h, bienvenue dans la matinale de l'économie. On est ensemble en direct jusqu'à 9h sur BFM Business. La suite des publications, les GAFAM, ça y est, ça a commencé. Alphabet, la maison mère de Google, a annoncé hier avoir réalisé 112 milliards de dollars de profit net au deuxième trimestre, chiffre jamais égalé. Tesla a publié aussi un chiffre au-delà des attentes, mais des marges sous pression. On va faire un point avec Étienne Brack sur toutes ces publications ce matin. Et puis, on partira à Londres où Samsung a tenu hier sa grande keynote annuelle. Au programme, trois nouveaux smartphones pliants pour relancer la dynamique du constructeur sud-coréen. On retrouvera à Londres Léa Benaïm dans un instant. Les autres titres, Léo Dumas.
La valorisation de Revolut explose. Semestre exceptionnel attendu pour Total Energy dans une heure. Et puis les autorités allemandes donnent leur feu vert pour faire du combustible nucléaire en coopération avec les Russes.
Dans la prochaine heure, le rendement des obligations françaises à 10 ans a atteint 3,99% hier. Une première depuis la fin de la crise financière en 2009. Faut-il s'inquiéter de ce coup de chaud? On posera la question dans le débat face à Le Chypre à 7h10. Et puis, l'activité mobilité a une fois encore porté les résultats d'Edenred. Malgré les réglementations plus ou moins favorables dans le monde, le leader des avantages aux salariés résiste. On va en parler avec son PDG Bertrand Dumazy. Il sera dans le grand entretien à 7h45. Toutes nos chroniques, tous nos invités. La matinale de l'économie, c'est parti. Soyez les bienvenus.
Écoutez BFM Business dans les grandes villes de France. En live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
Good morning business, le journal.
Et de grosses publications cette nuit à Wall Street, Léo.
À commencer par les résultats historiques d'Alphabet, la maison mère de Google qui annonce 112 milliards de dollars de profit net sur le deuxième trimestre. Grâce d'une part à des gains exceptionnels liés à ses participations dans certaines startups, mais aussi, Étienne Brack, grâce à une croissance plus que jamais au rendez-vous.
Notamment dans l'activité cloud. Rendez-vous compte, Google Cloud a vu ses ventes exploser de plus de 80%, 82% pour les ventes de Google Cloud au deuxième trimestre, là où les analystes s'attendaient à 64% de croissance. Et la prouesse de Google, c'est d'afficher une telle croissance, grâce à l'intelligence artificielle, bien sûr, sans pour autant détruire sa vache à lait, qui est Google Search, hein, avec bien sûr le moteur de recherche, mais également les activités publicitaires que vous retrouvez chez YouTube. Sur les revenus publicitaires, vous avez quand même une croissance de plus de 15%, ce qui est honorable hein, au vu du contexte actuel, notamment dans les médias. Alors, fort de cette publication, vous avez un groupe hier qui vous dit, finalement, on ne va pas investir 180 à 190 milliards cette année, mais plutôt 195 à 205 milliards. C'est tout simplement là aussi historique. Hein. Vous avez un groupe qui continue d'investir massivement dans les data centers, dans les fameuses TPU, hein, ce sont les puces graphiques, hein, concurrentes de Nvidia pour faire tourner les moteurs d'intelligence artificielle, à commencer par Gemini. Et la conséquence de tout cela, c'est que vous avez un cash flow. Alors certes, c'est technique, mais c'est le flux de trésorerie qui est négatif. Hein, c'est-à-dire que vous avez un groupe qui décaisse plus d'argent qu'il ne fait rentrer d'argent, moins 5,6 milliards de dollars au deuxième trimestre. Là aussi, c'est historique hein, pour Alphabet. Ça montre qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans un modèle d'asset light, hein, où on a peu d'actifs, mais on est vraiment sur un groupe qui devient industriel avec beaucoup de besoins en capitaux, et ça refroidit les marchés. Le titre perdait quasiment 3% hier en après-bourse.
L'autre publication qu'on attendait, c'était Tesla, Étienne, et les marchés sont déçus.
Oui, les marchés sont déçus. Certes, le chiffre d'affaires est en forte croissance, 26% au deuxième trimestre, 28 milliards de dollars, avec des volumes qui sont là aussi en très forte hausse. Pour faire simple, vous avez un groupe qui a vendu beaucoup plus de véhicules que l'an dernier, mais moins cher. Et donc, en fait, à la fin, vous avez des marges qui sont en baisse, et le résultat net est en recul de 17% à 1,1 milliard de dollars, là où les analystes s'attendaient à 1,8 milliard. Et là aussi, le titre était en baisse hier soir à Wall Street d'un peu plus de 3%.
Merci Étienne Brack. Dans la tech aussi, il y avait la grande keynote annuelle de Samsung. Hier soir, c'était à Londres et le géant sud-coréen a dévoilé trois nouveaux smartphones. Ils sont pliants pour tenter de retrouver une dynamique dans un marché mondial du mobile qui ralentit. Tous les détails sur place. Léa Benaïm pour BFM Business.
Et oui, pendant plus d'une heure, Samsung a voulu convaincre d'une chose. Le smartphone pliant n'est plus un produit de niche. Cette année encore, le constructeur a proposé que des modèles pliants. Un flip inspiré des téléphones à clapet, un ultra plus haut de gamme et pour la première fois, un fold qui s'ouvre comme un livre, comme un passeport. Trois formats, trois usages avec un objectif clair, séduire un public plus large. Samsung assure aussi avoir réduit l'un des principaux défauts de ces appareils, la fameuse pliure de l'écran, désormais beaucoup moins visible grâce à une nouvelle structure renforcée au titane. Au-delà des nouveaux modèles, Samsung a aussi envoyé un autre message. L'IA n'est plus la vedette de cette keynote. Elle est pourtant bien présente avec Gemini, la traduction ou les retouches photos. Mais cette fois, le constructeur est revenu à un discours plus centré produit, la finesse, les nouveaux matériaux, les performances, comme si finalement l'IA était devenue un prérequis et non plus un argument de vente. Il faut dire que le marché du smartphone est au plus bas depuis 13 ans. Les consommateurs se lassent des formats classiques, alors Samsung mise sur les pliants pour relancer la dynamique.
Léa Benaïm à Londres, où par ailleurs il y a la valorisation de Revolut qui a bondi de plus de 50%, 115 milliards de dollars selon une source de l'AFP, alors qu'une vente d'actions est en cours, précise Revolut, qui attend la fin du processus pour confirmer ce nouveau chiffre, supérieur en tout cas désormais par exemple à sa compatriote Barclays. Et puis encore un accord entre géants des puces et pépites de l'IA, c'est cette fois AMD qui va investir 5 milliards de dollars pour entrer au capital d'Anthropic. En face, l'éditeur de Claude, lui, passe une commande massive jusqu'à 2 gigawatts de puces ultra performantes.
On revient en bas des semestriels. Léo, Total Energy à suivre dans une heure.
Les analystes attendent encore des profits exceptionnels sur fond de flambée des prix du pétrole. Les cours qui grimpent à nouveau de jour en jour, 96 dollars ce matin pour le baril de Brent, alors que la guerre en Iran repart très sérieusement. 2026 s'annonce donc de bout en bout comme une année record pour le groupe. Mathieu Pechberti.
Les profits de Total Energy sont encore meilleurs qu'au premier trimestre. Les investisseurs s'attendent à plus de 6 milliards d'euros de résultats nets après 5 milliards en début d'année. Les cours du pétrole au deuxième trimestre sont restés au-dessus de 100 dollars, ce qui a permis de compenser la baisse de 10% de la production de pétrole à cause de l'arrêt de champs offshore en Irak et au Qatar. Selon l'ombre au tableau, les activités de gaz naturel liquéfié, l'autre pilier du groupe, sont en baisse. Mais avec la guerre en Iran qui continue et le baril qui remonte au-dessus de 90 dollars, les analystes s'attendent à une année record. Total Energy devrait dégager plus de 20 milliards d'euros de bénéfices pour 2026. La taxation de ces super profits reviendra dans le débat politique à la rentrée dans le cadre du budget 2027. La gauche milite pour, alors que le gouvernement préfère prolonger le plafond des prix des carburants. De son côté, le Rassemblement national est divisé entre Marine Le Pen, qui y est plutôt favorable, et Jordan Bardella, qui estime que la surtaxe de l'impôt sur les sociétés est suffisante.
Dans le secteur énergétique, toujours, c'était un projet controversé depuis des mois et des mois en Allemagne, et il vient finalement d'être validé. C'est la région de Basse-Saxe qui autorise ANF, la filiale du français Framatome, à faire du combustible nucléaire en coopération avec Rosatom, l'entreprise publique russe dans le secteur sous gestion presque directe du Kremlin, Éline Le Faou.
C'est en mars 2022 qu'ANF parle pour la première fois du projet aux autorités allemandes. L'objectif est de produire avec Rosatom des combustibles nucléaires pour des centrales de conception russes encore présentes en Europe. Mais la demande est stoppée avec la guerre en Ukraine, puis bloquée au Bundestag par les Verts. Depuis, la Basse-Saxe, où doit être implantée l'usine, est prise en tenaille entre la pression de Framatome et celle des écologistes. Le dossier est même évoqué lors d'une discussion entre Friedrich Merz et Emmanuel Macron. Au final, le ministère de l'Environnement de la région donne son feu vert en l'absence de sanctions européennes à l'encontre du nucléaire russe. La prudence reste toutefois de mise. Les autorités allemandes préviennent que l'autorisation pourra être réétudiée en cas de nouveaux risques identifiés, la Russie étant régulièrement accusée par Berlin d'actes d'espionnage et de désinformation. La collaboration nucléaire entre l'Europe et la Russie n'est pourtant pas nouvelle. Depuis des années, le français Framatome et son partenaire russe Rosatome s'échangent des convois d'uranium à la fois enrichi et à recycler.
Et puis, c'est un faux départ finalement pour Monique Barbu, convaincue par Emmanuel Macron de rester à son poste, la ministre de la Transition écologique, qui explique ce matin aux Échos qu'elle a eu la garantie de pouvoir agir. Elle prévient toutefois qu'il s'agit là de sa première et de sa dernière expérience politique. Elle annonce d'ailleurs la présentation d'un grand plan de restructuration des forêts pour le mois de septembre.
Merci Léo Dumas, on vous retrouve à 7h30. Les marchés tout de suite, 7h08. Étienne Braque, avec ce pétrole qui continue de grimper ce matin, $95 pour le baril de Brent.
Encore et toujours, un baril de pétrole qui est ce matin à nouveau sur ses plus hauts de début juin, quasiment 2% de hausse. Alors si c'est une bonne nouvelle, notamment pour Total Energy, qui va publier ses résultats dans moins d'une heure, tout à l'heure à 8h, les analystes attendent $6 milliards de profit net au deuxième trimestre. Cette nouvelle et cette remontée des cours du pétrole, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour la BCE. Et hasard de calendrier, elle va se réunir aujourd'hui. Oui. Christine Lagarde va communiquer en début d'après-midi. Alors les analystes, les économistes n'attendent pas de hausse de taux aujourd'hui, mais pourquoi pas au mois de septembre. Et vous avez des anticipations qui continuent de se renforcer. Quand vous regardez aujourd'hui les différents baromètres, les marchés anticipent à plus de 80% une hausse de 25 points de base lors de la réunion du mois de septembre. Et on le verra dans 3 minutes dans notre débat. Ça a un impact direct sur les taux souverains, à commencer notamment par le 10 ans français qui frôle désormais les 4%.
Oui, exactement. On va y revenir en effet dans le débat. Et puis cette grosse journée de publication aujourd'hui avec notamment Dassault Systèmes, BNP, Étienne.
Oui, Dassault Systèmes qui publie à l'instant un chiffre d'affaires en progression de 4% au deuxième trimestre. Et surtout, c'est l'élément à retenir de cette publication qui confirme acheter Harris Global. C'est un concurrent qui est notamment spécialisé dans la modélisation, dans les essais cliniques, notamment sur les sciences de la vie. L'information avait fuité la semaine dernière par des informations de presse et donc c'est désormais officiel, rachat pour $1,8 milliard. Pascal Dalloz vous en parlera tout à l'heure à 8h15 sur ce plateau. Autre publication à suivre et dont nous parlerons à 7h30, c'est BNP Paribas. Vous avez également du côté de la Suisse Nestlé qui publie ses résultats ce matin et puis hier soir dans le secteur du luxe, c'est Moncler qui a publié un chiffre d'affaires en progression de 5%, mais le marché attendait plus. Le titre est en baisse de 3% en préouverture. La faute notamment à une croissance des ventes qui est en dessous des attentes en Europe. Forcément, avec la guerre au Moyen-Orient, vous avez moins de touristes du Moyen-Orient qui sont venus en Europe. Et ça s'est répercuté très clairement sur les ventes en magasin.
Merci beaucoup Étienne. Vous restez avec moi. C'est le débat.
Good morning business, face à le Chypre.
Et vous venez d'en parler, le rendement des obligations françaises à 10 ans a atteint presque 4%. 3,99 hier, une première depuis la fin de la crise financière de 2009. Est-ce qu'on s'inquiète de ce coup de chaud, du coup, Étienne Braque?
3,99. On a vraiment frôlé les 4% hier sur le 10 ans français. C'est une première, en effet, depuis 2009. C'est pas négligeable, sachant que depuis la fin du mois de juin, début juillet, vous avez un 10 ans français qui a repris quasiment 25 points en ligne droite. Mais tous les taux ont remonté. Il ne faut pas l'oublier. Quand vous regardez le Bund, donc c'est la référence en Europe, le 10 ans allemand, on était à 3,16 hier. On en parle quasiment tous les jours sur ce plateau. Les taux au Japon sont sur des plus hauts historiques. Le yen, encore ce matin, continue de se déprécier. Et puis, aux États-Unis, ce n'est pas beaucoup mieux. Quand vous regardez le 30 ans américain, il est au-delà des 5%. Quand vous regardez le 10 ans américain, c'est la référence, on est à 4,67. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un instant. Vous avez de plus en plus d'investisseurs qui sont certes prudents sur la dette française, mais qui sont également prudents sur la dette américaine.
Donc, pas d'inquiétude quand on vous écoute.
C'est généralisé.
Plus que ça, c'est généralisé. On n'a pas forcément franchi une ligne rouge dans ce presque 4%. Emmanuel Le Chypre.
Alors oui, c'est vrai, c'est généralisé, sauf qu'il y a des pays pour lesquels ça fait plus mal que d'autres. Vous connaissez cette phrase que les banquiers centraux répètent souvent, c'est quand la mer se retire qu'on voit qui se baigne tout nu. Et effectivement, là, on sort d'un environnement où les taux d'intérêt étaient extrêmement favorables, donc où tout le monde, finalement, supportait un coût de la dette relativement modéré. Et manifestement, on va rentrer quand même, pour tout un tas de raisons, dans une période de taux d'intérêt plus élevé. Et là, effectivement, même si ça n'est pas la France qui est visée particulièrement, cette hausse des taux, elle fait particulièrement mal, effectivement, à la France. D'abord, oui, c'est un phénomène généralisé, mais enfin quand même, quand on regarde l'écart avec les taux allemands, il commence à être sérieusement élevé. On est à peu près à 80 points de base. Donc c'est quand même un écart absolument considérable. Après, ce que les marchés jugent aussi, c'est la capacité, finalement, d'un État à corriger le tir, de gouvernement à corriger le tir. Or là, la France est quand même dans une situation de paralysie que ne connaissent pas les pays voisins. L'Allemagne, effectivement, elle voit ses taux remonter, mais enfin bon, on connaît ses marges de manœuvre budgétaire. Là, on a effectivement un gouvernement qui est en fin de course. Alors, on essaye bien de montrer qu'on va faire des efforts, mais quand vous regardez ce qui a été annoncé hier par le Premier ministre en termes de volonté de révolutionner l'approche de la dépense publique et finalement la faible ampleur des mesures qui ont été annoncées, on se dit qu'on n'est pas tiré d'affaire. Vous avez quand même le FMI qui tire la sonnette d'alarme hier en nous disant qu'il faut un effort d'ajustement structurel de 0,8 points de PIB par an de nos dépenses publiques. Donc on ne voit pas d'où viendrait finalement le redressement avant un horizon assez lointain. Donc toute cette accumulation dans un monde où effectivement il va sans doute falloir s'habituer à avoir des taux d'intérêt un peu plus élevés, non, ça n'est vraiment pas une bonne nouvelle pour la France, et c'est peut-être pour la France que c'est d'ailleurs une des pires nouvelles.
On a des effets de base qui sont hyper défavorables, hein, dans le sens où on sort de dizaines d'années où les taux étaient à zéro, où il n'y avait pas d'inflation. Alors certes, maintenant, selon la définition, on peut se dire oui, l'inflation est temporaire, il y a des effets bien sûr très importants avec les prix de l'énergie, mais en tout cas à court terme, ça se répercute sur le prix de l'argent, hein, notamment pour le 10 ans français, mais également pour les entreprises, également pour les ménages. Et ce spread, en effet, continue de s'écarter. 80 points, là où on était à 60 points à la fin du mois de juin. Donc c'est vrai que l'ensemble des taux remontés, mais le 10 ans français a plus remonté que les autres, avec le risque politique, hein, puisque là, on va continuer à en parler de plus en plus à la rentrée, hein, avec cette élection présidentielle qui se profile. Et ça rassure vraiment pas les marchés par rapport à d'autres pays, même si les inquiétudes, et là-dessus, on peut dire la même chose par rapport au Royaume-Uni. Hein. On parle souvent du gilt, hein, les fameux taux du côté de Londres qui sont là aussi sur des plus hauts historiques. Quand je disais en préambule, Jamie Dimon, il a donné une interview à CNBC en début de semaine, il a dit « Moi, je ne suis pas acheteur du S&P 500 et je suis encore moins acheteur de la dette américaine parce qu'elle ne prend pas en compte ses déficits. » Donc au final, quand vous regardez les autres pays, malheureusement, ils ont plus ou moins les mêmes problèmes.
Merci beaucoup, messieurs. Vous vouliez rajouter quelque chose, Emmanuel ?
Non, mais sachant qu'il y a toujours cet argument, vous savez, qui consiste à dire « Oui, mais ce n'est pas grave parce que vous savez, la dette française, on la roule, et puis donc c'est pas toute la dette française qui est soumise à des taux d'intérêt plus élevés, sauf que quand vous remplacez du 4% par du 1%, ça finit par aller quand même très vite. Donc quand vous regardez ce que disent les quatre experts qui ont fait leur rapport sur les finances publiques la semaine dernière, presque 50 milliards d'euros de charges de la dette en plus d'ici 2030, là ça sent quand même l'effet boule de neige.
Merci messieurs, le plus tout de suite.
Good morning business, le plus.
Et nous partons en Turquie ce matin. Inflation élevée, dévaluation de la monnaie, impact de la guerre en Iran. L'industrie du pays est malmenée, mais les patrons adaptent leur chaîne de production et entretiennent leur lien étroit avec l'économie européenne. Le plus gros enjeu à venir pour le pays, c'est d'attirer les start-up, les talents et les investissements. Nathan Cocampo.
Dans ce laboratoire, les transformateurs sont malmenés, testés pour résister à la foudre, envoyés ensuite en Europe, aux États-Unis pour alimenter en énergie les usines, éclairer les villes, faire tourner les data centers. Le carnet de commandes est rempli, plus d'un milliard de dollars, notamment pour un géant de la tech américaine. Astor, fleuron industriel turc, doit rapidement augmenter ses capacités en s'adaptant au contexte géopolitique, comme le résume son directeur général adjoint.
Nos transformateurs envoyés vers les États-Unis sont taxés à 15%. Et évidemment, c'est un sujet important pour nous. Nous allons construire une usine là-bas pour fournir en local, où la demande explose, et ainsi bénéficier des subventions étatiques locales américaines.
En un an, inflation oblige, sa masse salariale en Turquie a été multipliée par deux. Pas le choix, il faut s'adapter, jouer sur les marges, multiplier les investissements pour produire plus et vendre plus. Un défi que doit aussi relever l'industrie automobile. Ford Otosan produit les trois quarts des véhicules utilitaires de la marque vendus en Europe. Son directeur général, aussi vice-président de l'Association des constructeurs du pays, appelle l'Europe à plus de clarté concernant les règles protectionnistes qu'elle prépare. Un « made in Europe » qui n'inclut pas encore totalement la Turquie.
L'ambiguïté vient du premier projet publié. Une partie du texte parle d'inclusion, mais certains détails techniques donnent l'impression que ce n'est pas le cas. Cela nécessite donc plus de travail. Pour nous, la marche à suivre est claire, parce qu'il existe un climat de collaboration entre l'Union européenne et la Turquie, où le commerce est très équilibré et cela renforce la compétitivité.
Résister au choc et continuer d'innover, comme avec le MEXT situé à Istanbul, un laboratoire de référence mondiale où les entreprises testent leurs innovations. Son directeur général est FRDEM.
En l'espace de 5 ans et demi, nous avons accompagné 900 entreprises. Plus de 300 d'entre elles sont des PME et le reste sont de grandes capitalisations issues de 15 secteurs différents de l'industrie turque. Automobile, électroménager, acier, mais aussi chimie, pharmacie, produits de grande consommation.
Prochaine étape, attirer les startups de l'IA pour ne pas rater le coche, comme le raconte le président du bureau d'attractivité du pays.
Nous créons un terreau fertile pour les startups et scale-up en Turquie et nous pensons qu'il y a globalement des financements disponibles. La Turquie compte de très solides entrepreneurs, leurs produits et services sont très compétitifs à l'échelle mondiale. Ils ont besoin de financement et d'un bon mentorat. Donc, si nous parvenons à apporter le bon financement et le bon mentorat, nous pensons que nous pouvons faire des miracles.
C'est aussi la nouvelle priorité du ministre des Finances Mehmet Şimşek, qui a pris depuis 2023 une série de mesures de rigueur drastiques et une politique de maintien des taux d'intérêt hauts pour réduire l'inflation. Des mesures qui commencent à porter leurs fruits. Un ministre VRP de son pays qui n'hésite pas à passer 2 heures avec la presse internationale pour vanter son projet de loi pour attirer la tech mondiale. Exonération d'impôts, avantages fiscaux en tout genre sur une période de 20 ans, avec l'espoir de faire d'Istanbul non plus un futur Dubaï, mais plutôt un futur Singapour selon ses mots.
Good Morning Business, la matinale de l'économie.
Et nous partons à l'international. En Arctique, la fonte des glaces est en train de transformer la région en nouvelle route du commerce maritime mondial et en nouveau terrain d'affrontement entre la Russie, la Chine et les États-Unis. Tous cherchent désormais à renforcer leur position dans cette région devenue ultra stratégique. Annalisa Capellini et Mathieu Jolivet nous expliquent les enjeux géopolitiques de cette région arctique devenue incontournable. Regardez.
Mathieu, on va parler aujourd'hui d'une zone géographique qui devient ultra stratégique, dont on a beaucoup parlé pendant cette première moitié d'année 2026, et où tous les états-majors du monde tentent de renforcer leur position, c'est la région arctique.
Oui, et pour bien comprendre ce qui se passe, en octobre dernier, il y a eu une première mondiale. Une compagnie chinoise, l'Arctic Express, a envoyé pour la première fois un porte-conteneur qui a relié la Chine à l'Europe en passant par le nord, c'est-à-dire par la route arctique. Ce raccourci, il est permis par la fonte des glaces et il divise par deux le temps pour relier la Chine à l'Europe. Et ça, c'est un symbole géopolitique très fort. L'Istanbul Bridge, c'est le nom de ce porte-conteneur, a mis seulement 20 jours pour relier la Chine à l'Europe, 2 fois moins que s'il était passé par le canal de Suez. Comment il a fait ? Tout simplement en passant par le détroit de Bering, puis en prenant un raccourci par l'Arctique.
Tu l'as dit, en fait, ce qui a permis à ce navire de prendre cette route, c'est bien la fonte des glaces. Il faut comprendre qu'il y a 10 ans, cette route ne pouvait être empruntée que 2 mois par an. Et encore, il fallait être accompagné d'un brise-glace russe pour sécuriser le tracé. Sauf que l'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que le reste du globe. Et donc aujourd'hui, 10 ans plus tard, eh bien, la route est ouverte 10 mois par an. Le potentiel est donc énorme, surtout quand on sait que ça offre une alternative au canal de Suez, où transitent quasiment tous les conteneurs qui relient aujourd'hui la Chine à l'Europe. C'est 1 conteneur sur 5 dans le monde. Et il y a un acteur incontournable dans la région, c'est la Russie, dont une partie des frontières longe l'Arctique. Donc tout navire qui passe par cette zone-là traverse une zone économique exclusive russe, une ZEE russe. Autrement dit, tout navire qui veut passer par la route arctique doit obtenir une autorisation par les autorités russes et doit souvent être escorté par un brise-glace russe.
En tout cas, les États-Unis ne comptent pas rester en marge de cette zone d'influence arctique. Le Pentagone redoute fortement une coopération sino-russe. Il craint de voir émerger une nouvelle autoroute commerciale et militaire qui a échappé au contrôle occidental, d'où la montée en puissance qui est discrète mais qui existe, des patrouilles américaines et alliées dans cette zone arctique. Donald Trump a même signé en octobre dernier un décret qui autorise la construction de brise-glace américains à propulsion nucléaire pour renforcer la présence et la sécurité dans cette zone arctique.
C'est en tout cas toute l'intense activité stratégique menée par les Russes et par les Chinois dans la région qui motive le président américain Donald Trump à prendre le contrôle territorial du Groenland. C'est une province du Danemark, un territoire autonome. C'est l'autre grand dossier de l'Arctique en ce moment. Donald Trump, qui s'est empêtré pendant des longs mois en Iran, ne parle plus désormais ouvertement du Groenland, mais le dossier pourrait très très vite revenir sur le devant de la scène. Donald Trump a déjà des bases militaires historiques sur l'île, mais ça ne lui suffit pas, ça ne lui suffit plus en tout cas. Pour lui, le Groenland est clairement dans son hémisphère occidentale qui va du Canada à la Terre de Feu. C'est une zone où Donald Trump se donne le droit d'intervenir sur tout sujet qui peut attenter à la sécurité des États-Unis. Et cette région arctique, selon lui, en fait clairement partie.
Voilà, les chroniques de l'ordre du monde à retrouver sur la chaîne YouTube de BFM Business et en podcast sur toutes les plateformes. Et puis, Good Morning Business a laissé la place à des pépites tout au long de la saison. C'est le pitch tout de suite.
Good Morning Business, le pitch.
Anthony Morel et Eva Jacot nous ont rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Ensemble pour mettre à l'épreuve notre pitcher du jour. Bonjour Arnaud Assous.
Bonjour.
Merci d'être sur le plateau de la matinale. Vous avez une minute pour nous vendre La Fraise, dont vous êtes le cofondateur. Top chrono.
Parfait, c'est parti. Bonjour. Donc La Fraise, c'est un agent IA qui rapproche les dentistes et leurs patients. L'objectif, c'est de lutter contre le renoncement aux soins. Aujourd'hui, il y a 45% des patients qui vont chez le dentiste, qui ont un devis et qui ne font pas ce devis. Il y a une raison. En fait, il y a 4 raisons même, exactement. La première raison, c'est qu'ils oublient leur devis. Donc en fait, ils vont chez le patient, chez le dentiste leur dit, il y a un devis à faire, ils oublient. Ils rentrent chez eux, ils ont plus mal. Deuxième raison, ils comprennent pas leur devis. Je sais pas si vous avez déjà vu un devis de dentiste, c'est incompréhensible. C'est des codes CCM, de la sécu, c'est très dur à comprendre. Troisième point, il faut qu'ils contactent leur mutuelle, il faut que la mutuelle leur réponde. Mais alors, comment on la contacte? Est-ce que je fais un email? Est-ce que je me connecte en direct? Compliqué. Quatrième point, et le dernier important aussi, surtout en ce moment, c'est conditions financières. Comment je fais pour payer mon dentiste? Ça coûte de l'argent. Est-ce que j'ai un moyen d'avoir une subvention? Est-ce que je peux avoir un financement? Donc voilà. Donc aujourd'hui, on a développé un agent IA qui va répondre à ces 4 problématiques et qui va aller sur le terrain du dentiste pour aider le dentiste dans la partie administrative et aider le patient à le rapprocher du dentiste pour qu'ils se comprennent tous les deux. Voilà l'objectif de l'agent.
Merci beaucoup Arnaud Assous, cofondateur de La Fraise. Première question peut-être pour Anthony,
oui,
spécialiste de l'IA.
Ouais, c'est ça. Et des dentistes moins. je suis moins fan que vous. Vous disiez,
oui,
moi j'avoue. Vous aimez le dentiste, vous.
Alors moi j'adore.
Fait.
C'est mon petit rendez-vous médical.
Ça, à l'approche de son anniversaire. En
ouais. Mais peut-être pas obligé de tout dire non plus.
Si, c'est intéressant.
Ouais,
je trouve.
Ouais,
c'est un trait
bien.
De caractère que je ne connaissais pas. Ouais. Mais cela dit, oui. Et c'est quoi alors du coup les points d'opacité que l'IA va permettre de lever? C'est vrai que les devis de dentiste, c'est compliqué. C'est quoi? C'est la terminologie? Est-ce que c'est les remboursements et le reste à charge? Parce que c'est vrai que quand on lit un devis, parfois on ne sait même pas combien on doit payer à la fin en définitive.
C'est entièrement vrai. En fait, vous lisez un devis de dentiste, mais ce n'est pas lié au dentiste, ce n'est pas la faute du dentiste. En fait, c'est un devis qui est normalisé.
C'est standardisé en fait.
C'est standardisé par l'État. Donc en fait, il y a une norme qui dit que le devis doit se présenter comme ça, avec tel code. Et aujourd'hui, les codes sont incompréhensibles. Donc du coup, déjà, on va expliquer le devis. Donc quand vous êtes sur la chaise du dentiste, il vous explique le devis, mais clairement, vous êtes un peu stressé, vous oubliez. Hein, on ne va pas se mentir, à part vous, a priori. Et donc du coup, l'idée, c'est que le patient, lorsqu'il est chez lui, il va recevoir son devis classique et en même temps une explication avec du texte, des vidéos.
Mais c'est un chatbot et je peux discuter, lui poser
alors,
des questions?
Vous
ou
pouvez poser des questions et vous avez des réponses. C'est fermé, ça a été écrit par des dentistes, c'est pas l'IA qui va générer des réponses totalement aléatoires, c'est des dentistes qui ont écrit ces réponses et on les met à disposition du patient. Et deuxième point, on les met dans plusieurs langues aussi. Parce que parfois, en fait, vous êtes pas... vous pouvez parler très bien français, il n'y a pas de problème, mais parfois certaines personnes ne parlent pas très bien français, elles ont besoin d'aide, donc ça peut être des anglais, ça peut être de l'arabe, du turc, de ce que vous voulez. Donc on est là pour leur expliquer dans différentes langues.
J'imagine que tout ça est RGPD compatible.
Totalement, ouais. Totalement. Ouais, effectivement, on respecte les normes RGPD, on respecte les normes. Nos serveurs sont des serveurs HDS, donc hébergement de données de santé. Donc c'est fait exprès dans ce domaine-là.
Vous parliez de quelque chose de très important dans votre pitch, du prix, de combien ça peut coûter. Souvent, les devis sont extrêmement chers. Est-ce qu'on peut rentrer notre mutuelle à l'intérieur et ça nous fait le calcul de ce qui nous est remboursé, enfin ce qu'on doit mettre de notre poche, quoi.
Oui, tout à fait. En fait, l'objectif, il est là, c'est que on croise des milliers de devis tous les jours. Aujourd'hui, il y a 1200 dentistes qui utilisent la solution en France. Et ça ne fait que grandir tous les jours. Et l'objectif, c'est de croiser l'ensemble des données qu'on reçoit de la part des patients qui font leur demande auprès de leur mutuelle pour vous donner une estimation. Donc demain, vous venez me voir, je vous dis, OK, vous allez faire une couronne. Globalement, vous êtes un homme de 35 ans, vivant en région parisienne. Donc vous allez dire, voilà, votre range de remboursement, ça va être ça. Après, vous voulez affiner, vous dites, voilà, je suis chez X Mutuelle. Très bien, X Mutuelle va vous dire que, du coup, pour vous, c'est plus ça. Vous voulez vraiment le détail, on va vous accompagner, on va vous dire, OK, il faut faire ci, ça, ça.
Oui, là, votre solution, elle est déjà déployée. Est-ce que vous avez des KPI, pour reprendre cette terminologie qui n'est pas très jolie, mais est-ce que, par exemple, vous donniez ce chiffre de 50% des devis qui ne sont pas honorés ensuite? Une fois qu'on utilise votre solution, on passe à quel pourcentage?
Globalement, vous augmentez entre 15 et 20% en fonction des cabinets. Donc il y a 15 à 20% de devis supplémentaires qui sont validés. Aujourd'hui, il y a, comme je vous disais, donc 1200 dentistes qui l'utilisent. Le mois dernier, il y a eu 7 millions d'euros de devis qui ont été validés sur notre plateforme. Il y a plus de 80 millions d'euros au global qui ont été validés. Donc vraiment, on sent que la solution fonctionne. Et vous prenez des cabinets dentaires qui avant faisaient signer en papier, qui faisaient une perte de temps pour tout le monde. Maintenant, oui. Les patients signent en ligne. 81% des patients signent en ligne aujourd'hui.
Oui, il y a un gain de temps aussi à la clé, bien sûr.
C'est pas payant pour le patient?
Pas du tout. C'est pas payant. Il y a aucun téléchargement d'application. Nous, on est vraiment là pour faciliter la vie du patient.
Mais c'est un abonnement pour le dentiste ?
C'est un abonnement pour le dentiste, tout à fait.
Merci beaucoup pour ce pitch très clair, Arnaud Assous. Vivement le prochain rendez-vous. Co-fondateur de La Fraise.
Dans un instant, le journal de 7h30. On va revenir sur la situation au Moyen-Orient et le pétrole qui monte encore ce matin. Le baril de Brent était à $96 tout à l'heure. Donald Trump continue les frappes mais commence à reparler d'un accord alors qu'un nouveau front s'est ouvert entre les Houthis du Yémen et l'Arabie Saoudite. On voit ça dans un instant. À tout de suite.
Good morning business. Le journal.
7h31, les titres, Léo.
Les Houthis ont frappé des pétroliers saoudiens. Les États-Unis poursuivent aussi leurs attaques, mais Donald Trump relance la perspective d'un accord. C'est ce que veut l'Iran, selon lui. On l'entendra. Pékin menace la France de représailles après la loi anti-fast fashion. Et puis, beaucoup de résultats ce matin. On regardera BNP Paribas avec Étienne Braque. Les frappes américaines se poursuivent donc sur l'Iran. Les États-Unis disent viser des cibles militaires de Téhéran qui répliquent toujours sur des pays du Golfe, principalement le Koweït, une nouvelle fois ce matin. Mais après maintenant 12 jours consécutifs, Donald Trump, qui garde aussi un ton très virulent et guerrier, commence doucement à reparler d'un accord. C'est en tout cas le souhait des Iraniens, dit-il hier soir en meeting depuis l'État de Géorgie.
The Islamic Republic of Iran.
La République islamique d'Iran, et si je l'appelle comme ça, c'est parce que, croyez-moi, ils sont frappés très durement et ils veulent conclure un accord. Mais je dis qu'ils ne sont pas prêts à conclure un accord, parce qu'à chaque fois qu'ils concluent un accord, ils veulent le changer. Ils ne sont pas prêts, ils seront prêts très bientôt, et malgré tout cela, tout continue. La bourse a atteint 73 records historiques depuis l'élection, pensez-y.
Alors pour le coup, ce matin, c'est le pétrole qui poursuit son chemin vers les records. On est au plus haut depuis début juin, $96 le baril de Brent, alors qu'il y a maintenant la confirmation qu'un nouveau front s'est ouvert dans cette guerre. Les Houthis ont attaqué deux pétroliers saoudiens en mer Rouge ces dernières heures au moyen de drones et de missiles, revendiquent-ils, et leur porte-parole menace dans la foulée l'Arabie Saoudite de nouvelles attaques.
Les forces armées poursuivront leurs opérations navales contre l'ennemi saoudien et continueront d'imposer le principe de blocus contre blocus. Elles affirment également à l'ennemi saoudien que tout acte insensé ou toute agression visant notre pays se heurtera à des opérations majeures au cœur de son territoire et que les conséquences seront graves pour lui par la volonté et la puissance de Dieu.
Et dans ce contexte, le scénario s'assombrit pour l'économie. C'est ce que dit la Banque mondiale, qui craint que la croissance n'atteigne qu'1,3% cette année dans le monde à cause de l'inflation, des taux d'intérêt notamment. Et ça inquiète sérieusement l'économiste en chef de l'institution, Nathan Cocampo.
Oui Léo, trois scénarios avaient été mis sur la table et c'est bien le troisième, le plus pessimiste, le scénario du pire, qui se concrétise pour Indermeet Gill. Le conflit au Moyen-Orient dure, entre dans son sixième mois et risque de relancer fortement l'inflation, 4,5% attendu cette année, et ce avec une croissance mondiale faible, 1,3% contre 2,9% l'an dernier. Une crise de la dette sans précédent menace, sur fond de remontée des taux directeurs. Les États, déjà fragilisés notamment depuis le Covid, risquent d'être confrontés à de graves difficultés pour assurer le service de leur dette. Si on prend les pays à faible ou moyen revenu, 4 pays sur 10 ont déjà basculé ou pourraient basculer dans une situation de surendettement selon l'institution, soit 32 pays comme la Somalie, le Soudan, le Ghana. Un nombre qui pourrait vite grimper si les taux remontent.
Et les perturbations du commerce mondial ne vont pas aider, Nathan.
Non, Sandra, les retards dans les livraisons d'engrais, d'hélium, de soufre, indispensables à l'agriculture, risquent d'aggraver l'insécurité alimentaire dans ces pays et déclencheront d'autres effets secondaires, notamment une hausse des taux d'intérêt et donc un poids trop élevé de la dette, selon l'économiste en chef. Le Pakistan vient par exemple de demander aux États-Unis un mécanisme de stabilisation de change, $10 milliards. L'économiste en chef s'attend à ce que certains pays demandent des annulations de dettes au cas par cas et indique aussi que pour l'instant, les plus grandes économies, les États-Unis, la Chine, l'Inde, restent relativement épargnées des effets directs de cette guerre.
Merci Nathan Cocampo. Dans l'actualité également ce matin, la Chine qui menace la France, Léo.
Oui, Pékin promet des représailles à Paris après le vote de la loi anti-fast fashion le mois dernier. Elle doit entrer en vigueur le 1er septembre. Et selon la Chine, c'est là une barrière commerciale qui est clairement érigée contre elle, Valentina Dbi.
Pour Pékin, cette loi française n'est pas une simple mesure environnementale. Le ministère chinois du commerce dénonce une réglementation discriminatoire qui, selon lui, cible uniquement les plateformes chinoises comme Shein ou Temu. Il estime que la France utilise des arguments de protection de l'environnement pour mettre en place des mesures d'exclusion contre ces entreprises. L'espagnol Zara ou le français Kiabi, par exemple, passent entre les mailles du filet. En l'occurrence, une taxe pouvant atteindre jusqu'à 20 euros par article en 2030 sur certains vêtements produits en série, ainsi qu'une interdiction de publicité pour les marques concernées. La Chine parle de non-respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce et met en garde Paris. Si les intérêts des entreprises chinoises sont menacés, des contre-mesures seront prises.
Les résultats de BNP Paribas ce matin. Il y a beaucoup de publications.
Et un nouveau trimestre historique pour la banque française. Résultat net en hausse de 33%, 4,35 milliards d'euros. Etienne Braque, c'est au-dessus des attentes.
Et c'est un trimestre historique, hein, 4,3 milliards d'euros. Souvenez-vous, hier, c'était sa concurrente espagnole Santander qui avait publié des résultats et qui avait mis la barre à un niveau assez élevé. Et donc là, ce matin, vous avez BNP qui publie des résultats légèrement au-delà des attentes grâce à une cession et grâce surtout à des éléments qui sont importants, notamment sur l'activité AXA IM qui continue de porter les ventes au deuxième trimestre comme c'était le cas au premier trimestre. Preuve quand même que la situation se dégrade en Europe et que c'est pas sans conséquence pour les banques. Vous avez un coût du risque qui remonte très légèrement à 39 points de base. Et puis dans le même temps, cette remontée des taux, c'est également bon pour les banques. Vous le voyez notamment sur la dynamique de la banque commerciale qui profite de cet environnement taux plus favorable pour notamment l'activité banque commerciale. Comme pour les banques américaines la semaine dernière, vous avez BNP Paribas qui a très largement profité de la forte volatilité des marchés au deuxième trimestre, puisque rien que sur la partie banque de financement et d'investissement, vous avez aujourd'hui un chiffre d'affaires qui est en hausse de quasiment 13% sur l'ensemble du trimestre. À noter que vous avez un dividende qui sera relevé et qui sera versé au mois de septembre, après notamment la cession qui a été annoncée en début d'année sur AG Insurance.
Il y a aussi Thales ce matin qui profite de la conjoncture porteuse et qui confirme toutes ses prévisions pour l'année. Le groupe voit ses ventes grimper de presque 7%, 11 milliards d'euros sur le semestre. Ses commandes plus 20% au-delà des attentes. Le groupe qui parvient aussi à se désendetter de 85% en un an et qui vise une marge proche des 11% en fin d'année.
ADPR France joue les guides touristiques très vite, Léo.
Oui, ils veulent faire visiter Paris aux voyageurs en correspondance en leur proposant en fait des séjours clés en main. Air France qui se met donc finalement au stopover, comme le font de nombreuses compagnies étrangères pour diversifier leurs revenus, Hélène Cornet.
ADP et Air France ne veulent pas lâcher les touristes à la sortie de l'aéroport et encore moins ceux qui sont en escale, mais bien les accompagner lors de leur court séjour dans la capitale parisienne. Ils proposent un service clé en main de 1 à 4 nuits avec transfert, hébergement 4 ou 5 étoiles et activités grâce au site de réservation Xtime Travel lancé il y a quelques mois par ADP. Site qui propose notamment des expériences comme l'achat d'un billet pour Disney ou une excursion à Giverny. La moitié des clients d'Air France qui arrivent à Roissy sont en correspondance, explique la compagnie aérienne. Une clientèle souvent à fort pouvoir d'achat, autant la retenir captive tout au long du trajet. Une nouvelle source de revenus, notamment pour le gestionnaire ADP qui s'est engagé dans un plan d'investissement sans précédent de plus de 8 milliards d'euros pour moderniser ses installations.
7h39, les marchés. Beaucoup de résultats ce matin. Etienne, vous avez du travail.
Et avant Total Energy à 8h, il faut suivre avec beaucoup d'intérêt Nestlé qui a publié ses résultats ce matin. Croissance organique légèrement supérieure aux attentes, 3,6%. Et surtout, vous avez Nestlé qui va vendre la moitié de ses activités eau qui ont été sous les projecteurs ces derniers mois. Ça concerne notamment les marques telles que Perrier ou encore San Pellegrino. Et donc, vous avez le groupe qui compte tirer 3 milliards de dollars de la moitié donc de ses activités. Il faudra bien sûr suivre ce titre tout à l'heure à la bourse de Zurich. Dassault Systèmes, que vous recevrez tout à l'heure sur ce plateau, à 8h15, gagne 1% en préouverture après la publication de ses résultats et surtout après avoir confirmé le rachat de son concurrent américain Harris Global. C'est quand même une acquisition pour quasiment 2 milliards de dollars. Edenred, qui sera sur ce plateau dans un instant, est également en hausse en préouverture avec un groupe qui publie certes des résultats en baisse mais qui revoit à la hausse ses perspectives pour la deuxième partie de l'année. Et puis enfin, un dernier mot de ST Microelectronics.
C'est la star du CAC 40 depuis le début de l'année. Le titre gagne 150% grâce notamment à l'intelligence artificielle. Petite déception sur les ventes par rapport aux attentes des analystes sur les ventes du deuxième trimestre, mais vous avez un groupe qui prévoit une accélération de ses ventes dans la deuxième partie de l'année grâce notamment à l'intelligence artificielle et à toutes les puces qu'il arrive à distribuer dans les data centers.
Merci beaucoup Étienne Brack. La chronique retail tout de suite.
Good morning business, la matinale de l'économie.
Le meilleur de la chronique retail est Lancôme, marque du groupe L'Oréal qui a dévoilé cette année son innovation mondiale sur les masques LED au salon Vivatech Technologies qui s'est retrouvée dans son flagship des Champs-Élysées. C'est là-dessus que mise la marque notamment. Eva Jaco est sur place, regardez.
Oui, le flagship international de Lancôme fait peau neuve. Il est situé au 52 de l'avenue des Champs-Élysées, un magasin complètement repensé pour l'occasion et qui dédie 80% de son espace à la longévité. Un parti pris intéressant quand on sait que ce marché devrait représenter 46 milliards de dollars d'ici à 2033. L'objectif donc de ce nouvel espace est de rendre accessible cette science de la longévité au grand public. Aujourd'hui, dans le secteur de la beauté, les habitudes de consommation ont évolué. Les clientes ne se déplacent plus seulement pour acheter des produits, mais pour vivre des expériences. Et c'est justement toute l'essence de ce nouveau lieu qui ressemble à une clinique futuriste. Vania Lacascade, présidente de Lancôme International.
Le skincare est en train d'entrer dans l'ère de la longévité et c'est vrai que ça va profondément transformer l'avenir de la beauté de luxe. Ce lieu, cette maison de la longévité, ici sur les Champs-Élysées, c'est l'opportunité pour nous de concrétiser cette science de la longévité en une destination immersive, physique, pour toutes les consommatrices.
Vania, dans cette boutique, il y a des expériences qu'on connaissait déjà, notamment le diagnostic de peau, mais d'autres qui sortent pour la toute première fois ici.
Oui, effectivement, on est dans un hub de longévité qui démarre par une phase de diagnostic. Et c'est vrai qu'on a ce nouvel outil qui s'appelle Cell Bioprint, qu'on a développé en partenariat avec la start-up coréenne NanoNTech. Et en fait, cet outil nous permet pour la première fois de mesurer l'âge biologique visible de la peau en quelques minutes sur le point de vente.
Comme c'est l'une des marques du groupe L'Oréal les plus avancées dans l'innovation, vous nous parlez de deux partenariats avec une start-up coréenne et une start-up suisse. Ça va encore plus loin ?
Écoutez, aujourd'hui, le luxe est en train d'évoluer. Je pense que la désirabilité, mais aussi la performance, le progrès scientifique se complètent. Et les consommateurs aujourd'hui recherchent des solutions de plus en plus personnalisées. Ils recherchent des recommandations précises. Ils recherchent une vraie valeur ajoutée pour leur peau.
Alors, dans cette boutique, on voit aussi beaucoup d'outils qui se développent de plus en plus dans la beauté, notamment des masques LED. Ça, c'est une toute nouvelle innovation.
Sur les Champs-Élysées, nous avons deux outils qui sont en découverte. Donc, il y a un outil de cryo pulse professionnel, mais aussi nos masques LED qui ne seront lancés en fait qu'en 2027.
Alors, Vania, la peau s'entretient aussi par l'alimentation. C'est ce que vous avez voulu créer ici avec ce café et des recettes spéciales longévité.
Alors, ce qu'on voulait, c'est proposer une expérience de beauté in and out. Donc, dans ce café, on a des shots, on a des jus pressés, des snacks protéinés, des boissons chaudes, donc avec différents types d'ingrédients, de la turmérique au gingembre, des fonctions antioxydantes. Donc l'ensemble est vraiment prévu pour avoir une approche longévité complète pour nos clientes.
Dans ce magasin expérientiel, les soins de 15 à 20 minutes coûtent entre 40 et 50 euros. Alors que la skincare représente la plus grosse catégorie de Lancôme dans le monde, dont les plus gros marchés sont la Chine et les États-Unis, c'est un tiers des ventes en France.
Dans un instant, dans la matinale de l'économie, le grand entretien. On va parler des résultats d'Edenred, le leader mondial des avantages aux salariés. Un bénéfice net en recul de 7,5%, mais des prévisions de croissance relevées pour la fin de l'année 2026. C'est Bertrand Dumazil, PDG d'Edenred, et sur ce plateau avec moi dans une minute. À tout de suite.
Good morning business, le grand entretien.
Le grand entretien, c'est Bertrand Dumazy, PDG d'Edenred, qui est avec moi ce matin. Bonjour.
Bonjour
Edenred,
Sandra.
Edenred, leader mondial des avantages aux salariés. Vous publiez vos résultats du premier semestre et on note un bénéfice net en recul de 7,5%, 214 millions d'euros de bénéfice net. Mais vous relevez vos prévisions de croissance pour la fin de l'année 2026. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. On va revenir sur ce bénéfice net. Ça, c'est la conséquence de ce qui s'est passé en Italie et plus récemment au Brésil.
Absolument. C'est-à-dire qu'on a des changements régulatoires. Donc, pour nous, 2026 est une année de transition. Donc, on absorbe le choc, mais on se prépare à de la bonne croissance. pour les années à venir.
C'est la remise en conformité, parce que là-bas, ce qui se passe dans ces deux pays-là, c'est la réglementation en fait qui pose problème.
Alors oui, la régulation n'avait pas changé depuis une vingtaine d'années. Un nouveau cadre a été fixé, ce qui a l'avantage de donner de la visibilité. Et maintenant, on peut se redéployer dans ce nouveau cadre. Mais dans un premier temps, il y a un reset qui est fait et on est dans cette phase de transition en 2026. Pour juste une partie de nos activités, ces deux pays représentent 20% de notre chiffre d'affaires.
Ce que vous dites, c'est que la résilience du groupe vient aussi du fait que vous êtes géographiquement partout. C'est 45 pays aujourd'hui.
Nous sommes dans 45 pays.
Edenred, voilà, c'est ça. Et l'activité très importante pour vous en ce moment, c'est la mobilité qui prend de plus en plus de place.
Absolument, la mobilité qui fait à peu près 30% de notre chiffre d'affaires et qui est en croissance de plus de 10% sur le premier semestre 2026.
C'est la conséquence de l'électrification des flottes, qui est elle-même la conséquence du conflit au Moyen-Orient, ça joue tout ça?
Alors tout ça, ça joue, mais pas que. C'est-à-dire que déjà, pour essayer de définir notre métier dans la mobilité, en gros, vous êtes un professionnel qui gère une flotte de véhicules, donc de véhicules de transport ou de livraison, et Edenred est capable de vous proposer une solution complète, c'est-à-dire, sur l'électrique, l'installation de vos bornes, la gestion de vos bornes, la consolidation au moment où vous chargez, soit au dépôt, soit à la maison, soit sur la route. Sur la route, désormais, avec les produits d'Enred, vous avez accès à 1 million de bornes de recharge. Mais si vous avez un véhicule lourd, et vous voyez en fait cette activité qui commence à se développer, c'est-à-dire des camions électriques, déjà en Europe, vous avez accès à 450 bornes de recharge rapide, haute tension pour des véhicules lourds, avec les solutions Edenred.
Et on a une bonne nouvelle d'ailleurs cette semaine, en termes de recharge électrique, la France, qu'on disait tellement en retard ces dernières années, finalement est en avance sur ses objectifs. Donc ça s'apporte aussi.
Oui, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire nous les Français, on a tendance à beaucoup discuter au départ, mais une fois qu'on s'est mis d'accord, on a une courbe d'adoption qui est en général beaucoup plus élevée que partout ailleurs dans le monde.
Ça fait du bien en tout cas d'avoir des nouvelles un peu optimistes. La réforme des titres restaurants, parce qu'on ne dit plus tickets restaurants, c'est vous les tickets restaurants.
Alors, tickets restaurants, c'est notre marque. Et c'est le leader mondial des titres restaurants.
La réforme donc qui pourrait être examinée à la rentrée par le Parlement, ça va encore élargir a priori son utilisation, être utilisé pour toutes les courses après le 31 décembre prochain. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? On sait que le pouvoir d'achat des Français, ça va être un des sujets, si ce n'est le premier sujet dans cette année présidentielle.
Oui, alors écoutez, le ticket restaurant, c'est quoi? C'est une mesure de pouvoir d'achat équitable entre ceux qui ont une cantine et ceux qui n'en ont pas. Donc je rappelle qu'en France, il y a encore 50% des travailleurs français qui n'ont pas accès à une solution d'alimentation avec une aide de leur patron pour avoir accès à une alimentation de qualité tous les jours. Donc si cette réforme permet d'amplifier l'adoption de ces produits en France, c'est une très bonne chose.
Pour autant, on a le droit à 25 euros par jour en ce moment. Est-ce qu'il faut baisser un petit peu ce plafond sous prétexte qu'on vient acheter son déjeuner en grande distribution?
Alors, moi, je pense que là où il faut faire attention, on peut acheter son déjeuner en grande distribution. Là, la pérennisation dans la grande distribution, c'est acheter des produits non directement ingérables, donc des œufs, de la farine, etc. C'est plutôt une bonne chose, mais il faut faire très attention parce que c'est quand même le patron qui paye une partie et le patron, il paye pour un repas équilibré au travail et pas en dehors du travail. Donc, s'adapter aux nouveaux modes de consommation, c'est très bien. Mais il faut bien garder les limites, sinon le système n'aura plus d'intérêt pour ceux qui le financent. Donc la réforme, en ce sens, me paraît équilibrée, mais il ne faut pas aller plus loin.
Même argument donc pour l'extension aux achats le dimanche, parce que pour le moment, ce n'est pas forcément possible, et ça pourrait l'être avec cette réforme.
Alors, est-ce que vous savez qu'il y a déjà près de 20% des travailleurs français qui peuvent utiliser leur ticket restaurant le dimanche, parce qu'ils travaillent le dimanche?
Oui.
Donc encore une fois, ça doit rester une mesure de pouvoir d'achat équilibré et équitable pour l'alimentation au travail.
On va parler de votre plan Amplify 2025-2028. C'est finalement
2029.
2029, le développement d'Edenred dans les années qui viennent pour attirer de nouveaux utilisateurs. Vous en êtes où à l'issue de ce premier semestre?
Alors,
déjà,
ouais, le premier semestre est très encourageant puisque, en fait, quand on regarde nos acquisitions, elles sont de nouveaux clients, elles sont en croissance de plus de 10%. Donc, en fait, si on replace ça dans le contexte, L'année 2026 est une année de transition. C'est une année qui se passe mieux que prévu sur le premier semestre, ce qui nous permet en fait d'améliorer les perspectives sur l'ensemble de l'année et ce qui nous permet aussi d'envisager avec beaucoup d'optimisme 27 et 28 où on voit de la croissance de l'ordre de 8 à 12%. Cette croissance viendra par plus d'utilisateurs, donc notre capacité à aller chercher en fait plus d'entreprises clientes des services Edenred. Oui. Et ça, on est dans un mouvement d'amplification fort, notamment grâce à l'utilisation de l'IA. Et on doit être capable aussi de fournir plus de services pour chaque utilisateur. Et là aussi, nos plans se déroulent conformément à ce qu'on avait prévu.
Moi, j'aime pas les questions très larges sur l'intelligence artificielle. Là, vous voulez continuer vos investissements dans la data et l'IA, les multiplier par 6. Oui. Concrètement, il va y avoir quoi dans l'IA et la data chez Edenred dans la prochaine année, les deux prochaines années?
Alors, très concrètement, d'abord, une ambition, nous serons les grands gagnants de la révolution et de la rupture technologique de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, pour nos collaborateurs, ils sont déjà 50% à utiliser l'IA et il y en a déjà 33% qui a été formé, on en aura 66% d'ici à la fin de l'année. Oui. Ça veut dire que chaque collaborateur d'Edenred a accès à un environnement sécurisé, multi-LLM, au sein des outils de travail d'Edenred. Donc c'est de l'efficacité personnelle. Deuxième chose, c'est de l'efficacité collective, c'est-à-dire qu'on redéfinit nos process. Par exemple, l'acquisition de nouveaux clients, aujourd'hui, n'est pas automatisée. Tout se fait au téléphone, via email. On développe des nouveaux process, ce qui fait que l'immense majorité de tout cela va être automatisé avec des agents IA, ce qui nous permet en fait d'aller conquérir plus de nouveaux clients, plus rapidement et pour moins cher. Donc très concrètement, plus rapidement, ça veut dire que closer un lead, on fera 20% de conclusion de plus qu'avant et ça devrait nous coûter à peu près 30% moins cher. Donc on va pouvoir accélérer notre mécanique d'acquisition. La troisième chose encore plus visible, c'est que tous les utilisateurs des services Edenred, quels qu'ils soient, auront l'aide d'un agent. Donc, je vous prends un exemple. Si vous utilisez en France notre solution Ticket Restaurant et avec du CESU, vous allez avoir un agent qui vous dit « Sandra, on voit que vous aimez ci, ça, ça. Par exemple, le jeudi, vous aimez déjeuner japonais. Et voilà les propositions que votre agent dédié va faire. » Plus important encore, dans nos produits, notamment sur la mobilité, vous vous levez le matin, vous prenez votre camionnette pour faire vos livraisons, vous avez votre téléphone portable qui vous parle avec votre agent qui s'appelle Ted pour l'instant, et Ted va vous dire, Sandra, dans ta livraison, voilà en fait le parcours optimal pour dépenser moins d'énergie, moins polluer la planète, et voilà l'endroit où il faut que tu recharges électriquement ou que tu fasses ton plein d'essence ou par exemple au Brésil d'éthanol en fonction de l'évolution des prix d'une station à l'autre.
On va être accompagné tout au long de la journée dans ces repas, dans ces déplacements.
Si vous le souhaitez.
Si on le souhaite, oui, vous avez raison de le dire. Une toute petite question très très vite sur Edenred qui a été rapproché par plusieurs fonds d'investissement pour un potentiel rachat du groupe. On en est où aujourd'hui de ces questions-là?
Alors, comme disait ma chère mère, vaut mieux faire envie que pitié. Et donc, en fait, quand on regarde les perspectives de croissance d'Edenred et ses résultats au premier semestre, évidemment, il y a beaucoup d'investisseurs qui regardent en disant « mais on aimerait pouvoir investir dans Edenred ». C'est pour ça qu'on a eu des marques d'intérêt. Est-ce qu'on a des marques d'intérêt? Oui. Une confirmation de cet intérêt? Non.
D'accord, on en est là pour le moment.
On en est là pour le moment.
Merci beaucoup Bertrand Dumazy d'être venu ce matin sur ce plateau. On avait beaucoup, beaucoup de sujets à traiter. PDG d'Edenred, le leader mondial des avantages aux salariés. Merci d'avoir été dans la matinale de l'économie. Dans un instant, on va parler de toutes les publications. Il y en a beaucoup en ce moment. Tesla, Alphabet, la maison mère de Google. On partira à Londres aussi pour voir les nouveaux produits de Samsung. Restez avec nous.
BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good morning business. Sandra Gandon.
Il est presque 8h, bienvenue dans la matinale de l'économie. On est ensemble en direct jusqu'à 9h sur BFM Business. La suite des publications avec les GAFAM, Alphabet, la maison mère de Google, qui a annoncé avoir réalisé 112 milliards de dollars de profits nets au deuxième trimestre grâce au cloud, on va le voir. Tesla a publié aussi un chiffre au-delà des attentes, mais des marges sous pression. On va faire le point avec Étienne Braque ce matin. Et puis on partira à Londres aussi, où Samsung a tenu hier sa grande keynote annuelle. Au programme, trois nouveaux smartphones pliants pour relancer la dynamique. On verra tout à l'heure tout cela avec Léa Benaïm au Royaume-Uni. Les autres titres, Léo.
On verra ce qu'il s'est passé chez OpenAI, qui reconnaît avoir perdu le contrôle de son IA. Un semestre exceptionnel attendu pour Total Energy. La publication est imminente. Et puis, les autorités allemandes donnent leur feu vert pour faire du combustible nucléaire en partenariat avec les Russes.
Dans la prochaine heure, les résultats d'Dassault Systèmes. Je vous l'ai dit, ça tombe dans tous les sens. Chiffre d'affaires en hausse de 4% pour le deuxième trimestre. On va en parler avec son directeur général Pascal Dalloz, de réglementation et d'IA également. Ce sera à 8h15 dans la French Tech. Et puis, c'est un ancien militaire du GIGN et il y a 12 ans, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Thierry Orozco, directeur général d'Obvious Technologies, sera avec moi à 8h20 dans Parole de Patron. La matinale de l'économie, ça continue. Soyez les bienvenus.
Good morning business. Le journal.
Les publications cette nuit à Wall Street, Léo.
On a commencé par les nouveaux résultats historiques d'Alphabet, la maison mère de Google, qui annonce 112 milliards de dollars de profit net rien que pour le deuxième trimestre, grâce d'une part à des gains exceptionnels liés aux participations dans certaines startups, mais aussi, Étienne Brack, grâce à une croissance plus que jamais au rendez-vous.
Et cette croissance, elle se situe dans le cloud, et plus précisément chez Google Cloud. Rien que sur cette activité Google Cloud, vous avez des ventes qui ont progressé de plus de 80%. On parle quand même pas là d'une start-up, mais de la deuxième capitalisation mondiale. 24 milliards de dollars pour les ventes de Google Cloud au deuxième trimestre. C'est largement au-delà des attentes. Ça porte le profit opérationnel. Donc, si on enlève les gains exceptionnels grâce aux participations dans SpaceX et dans Anthropic à 40 milliards. 40 milliards en l'espace de 3 mois. C'était 30 milliards il y a un an. Là aussi, c'est au-delà des attentes. Et alors, la prouesse de Google, c'est d'afficher une croissance forte dans le cloud, dans l'intelligence artificielle, sans pour autant se cannibaliser dans la partie search, sur la partie Google Search, puisque là, vous avez des revenus publicitaires qui sont toujours en hausse, idem du côté de YouTube. Donc, avec ces résultats, vous avez un groupe qui dit, bah, en fait, on va encore dépenser plus d'argent que prévu. En début d'année, ils avaient dit, on va dépenser entre 180 et 190 milliards de dollars dans l'IA. Finalement, ça sera entre 195 et 205. Et ça, ça fait un petit peu peur au marché. Le titre était en baisse hier d'un peu plus de 3%.
Publication qu'on attendait aussi, Étienne, c'était Tesla et les marchés sont déçus.
Oui, les marchés sont déçus, alors pour d'autres raisons, contrairement à Alphabet. Là, ce sont les marges qui sont en delà des attentes chez Tesla, avec certes une dynamique très forte sur les ventes, plus de 20% pour le chiffre d'affaires, mais vous avez un groupe qui a baissé ses prix et qui a donc vu ses marges se comprimer au deuxième trimestre, avec concrètement une marge brute qui est à 16,8% contre 19% attendu par les analystes. Et donc ça, en effet, ça fait flancher le titre. Ça sera confirmé tout à l'heure à 15h30, mais hier soir, on était sur un moins 3% pour Tesla.
Merci Étienne Brack. Par ailleurs, il y a la valorisation de Revolut qui a bondi de plus de 50%, 115 milliards de dollars selon une source de l'AFP, alors qu'une vente d'actions est en cours, précise la néobanque qui attend la fin du processus pour confirmer cette valorisation supérieure, en tout cas désormais, par exemple, à sa concurrente compatriote Barclays. Et puis, encore un accord entre géants des puces et pépites de l'IA, c'est cette fois AMD qui va investir 5 milliards de dollars pour entrer au capital d'Anthropic. Quand en face, l'éditeur de Claude, lui, passe une commande massive jusqu'à 2 gigawatts de puissance en puces ultra performantes.
Dans ce secteur aussi, un incident sans précédent chez OpenAI.
Oui, lors d'un test interne, ces agents IA ont en fait de leur propre initiative piraté une autre entreprise et obtenu des informations pour tricher à ce test. Alors Sam Altman évoque un incident de sécurité majeur, Nathan Cocampo.
Difficile de ne pas penser à Terminator. Comme dans le film de James Cameron, une intelligence artificielle a agi en toute autonomie pour pirater des données sensibles, confidentielles, pour agir dans le secret des ordres humains. Pas de robot tueur cette fois-ci, mais une cyberattaque majeure qui inquiète son propriétaire OpenAI. L'entreprise donne dans un communiqué rare les premiers éléments de l'enquête en toute transparence pour renseigner le secteur sur cette faille. Lors d'un test interne, ces derniers modèles d'agents IA, dont certains pas encore commercialisés, ont tout fait avec une énergie considérable pour réussir à se connecter à Internet, cibler une autre entreprise d'IA, Hugging Face, et l'attaquer via des identifiants volés. Cette dernière a détecté l'activité suspecte et réussi à la stopper. À l'arrivée, pas de malveillance de la part d'OpenAI, mais une réalité, son IA lui a échappé. Les deux entreprises travaillent ensemble pour comprendre l'incident et ainsi évaluer les mesures à prendre pour éviter qu'il ne se reproduise. Même si OpenAI l'admet, ce genre d'événement devrait se généraliser avec la prolifération génération de modèles de plus en plus performants.
On revient au bal des semestriels et la publication imminente de Total Energy.
Ça va tomber d'une minute à l'autre et les analystes attendent en tout cas des profits exceptionnels sur fond de flambée des prix du pétrole, les cours qui grimpent à nouveau de jour en jour. On est à 96$ ce matin alors que la guerre en Iran repart très sérieusement et que 2026 s'annonce donc comme une année record pour le pétrolier, Mathieu Pechberti.
Les profits de Total Energy sont encore meilleurs qu'au premier trimestre. Les investisseurs s'attendent à plus de 6 milliards d'euros de résultats nets après 5 milliards en début d'année. Les cours du pétrole au deuxième trimestre sont restés au-dessus de 100$, ce qui a permis de compenser la baisse de 10% de la production de pétrole à cause de l'arrêt de champs offshore en Irak et au Qatar. Selon Gros Tableau, les activités de gaz naturel liquéfié, l'autre pilier du groupe, sont en baisse. Mais avec la guerre en Iran qui continue et le baril qui remonte au-dessus de 90$, les analystes s'attendent à une année record. Total Energy devrait dégager plus de 20 milliards d'euros de bénéfices pour 2026. La taxation de ces super profits reviendra dans le débat politique à la rentrée dans le cadre du budget 2027. La gauche milite pour, alors que le gouvernement préfère prolonger le plafond des prix des carburants. De son côté, le Rassemblement national est divisé entre Marine Le Pen, qui y est plutôt favorable, et Jordan Bardella, qui estime que la surtaxe de l'impôt sur les sociétés est suffisante.
Dans le secteur énergétique, toujours, c'était un projet controversé depuis des mois et des mois en Allemagne, et il vient finalement d'être validé. C'est la région de Basse-Saxe qui autorise ANF, la filiale du français Framatome, à faire du combustible nucléaire, mais en coopération avec Rosatom, l'entreprise publique russe du secteur, sous gestion presque directe du Kremlin, Éline Le Faou.
C'est en mars 2022 qu'ANF parle pour la première fois du projet aux autorités allemandes. L'objectif est de produire avec Rosatom des combustibles nucléaires pour des centrales de conception russes encore présentes en Europe. Mais la demande est stoppée avec la guerre en Ukraine, puis bloquée au Bundestag par les Verts. Depuis, la Basse-Saxe où doit être implantée l'usine est prise en tenaille entre la pression de Framatome et celle des écologistes. Le dossier est même évoqué lors d'une discussion entre Friedrich Merz et Emmanuel Macron. Au final, le ministère de l'Environnement de la région donne son feu vert en l'absence de sanctions européennes à l'encontre du nucléaire russe. La prudence reste toutefois de mise. Les autorités allemandes préviennent que l'autorisation pourra être réétudiée en cas de nouveaux risques identifiés, la Russie étant régulièrement accusée par Berlin d'actes d'espionnage et de désinformation. La collaboration nucléaire entre l'Europe et la Russie n'est pourtant pas nouvelle. Depuis des années, le français Framatome et son partenaire russe Rosatom s'échangent des convois d'uranium à la fois enrichis et à recycler.
Et puis finalement, c'est un faux départ pour Monique Barbu, convaincue par Emmanuel Macron de rester à son poste. La ministre de la Transition écologique qui explique ce matin aux Échos qu'elle a eu la garantie de pouvoir agir, qu'elle présentera notamment un plan de restructuration des forêts au mois de septembre. Elle prévient toutefois qu'il s'agit là de sa première et sa dernière expérience en politique.
Merci Léo. Les marchés tout de suite, 8h07. La tendance à moins d'une heure de l'ouverture, Étienne Brack.
Moins 0,2% pré-ouverture pour le CAC 40, mais tout dépendra bien sûr de Total Energy, puisqu'avec 170 milliards de capitalisation boursière, c'est la quatrième capitalisation du CAC 40. Les résultats qui seront publiés dans quelques instants seront bien sûr décisifs pour le CAC 40 et l'ouverture tout à l'heure à 9h. En attendant, beaucoup de résultats à regarder ce matin avec BNP Paribas, hein, qui a touché un plus haut historique hier d'ailleurs, hein, au-delà des 107 euros à la veille de ces résultats. Des résultats légèrement au-delà des attentes. Résultat net en hausse de plus de 30% grâce notamment à la vente de sa participation dans AG Insurance. Vous avez un groupe qui annonce augmenter son dividende qui sera versé au mois de septembre. Dassault Systèmes, qui sera sur ce plateau dans quelques instants, eh bien fait une acquisition, hein, confirme les informations de presse de la semaine dernière, rachète un concurrent américain pour se concentrer et surtout accélérer sur la modélisation, sur les essais cliniques dans les sciences de la vie. Il faudra bien sûr regarder ce titre tout à l'heure à 9h, ainsi que Nestlé qui a publié ses résultats ce matin. Le groupe qui est coté à Zurich va vendre la moitié de son activité eau. Il espère en récupérer 3 milliards de dollars. Tout cela devrait plaire au marché, sachant que c'était attendu depuis de nombreux mois maintenant. Un dernier mot des cours du pétrole qui sont toujours sur des plus hauts de début juin, puisque nous sommes à 95$ pour le baril de Brent. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour la BCE qui va communiquer cet après-midi. Pas de hausse de taux attendue aujourd'hui, mais pourquoi pas au mois de septembre, avec des pressions inflationnistes qui vont continuer de se renforcer à court terme.
Merci beaucoup Étienne. Culturia tout de suite.
Good morning business. Culturia.
Et nous partons à Londres ce matin où Samsung a tenu hier sa grande keynote annuelle. Au programme, trois nouveaux smartphones pliants. Dans un marché du mobile qui ralentit, le constructeur sud-coréen plus que jamais sur ses nouveaux formats pour relancer la dynamique. C'est un reportage sur place de Léa Benaïm.
Et oui, Samsung parle d'une année charnière, un clin d'œil au smartphone pliant, mais aussi au tournant que veut incarner le constructeur. Samsung a présenté un flip pour ceux qui veulent un téléphone compact, un fold qui adopte pour la première fois un format livre, un format passeport pensé pour le divertissement, et un ultra plus haut de gamme destiné à la productivité. Trois modèles, trois usages, avec un objectif, selon Jérôme Bloch, le directeur marketing de Samsung Electronics France, convaincre que le smartphone pliant est enfin devenu un produit grand public.
Aujourd'hui, les consommateurs français, ils utilisent leur smartphone pour 56% de leurs usages à consommer du contenu. Et aujourd'hui, en fait, sur le Fold 8, qui a donc ce nouveau form factor, on a trois écrans finalement disponibles. Et donc aujourd'hui, ça va nous permettre d'aller toucher en fait un peu plus de monde que ce que ça avait été vers le passé.
Une offensive qui s'explique aussi par le contexte. Le marché mondial du smartphone est au plus bas depuis 13 ans. Face à Apple et des constructeurs chinois toujours plus agressifs, le groupe cherche à conserver son avance sur ce segment devenu de plus en plus concurrentiel. Enfin, les prix augmentent jusqu'à 200€ de plus selon les modèles. On pourrait penser que c'est dû à la crise de la RAM, mais pas que, selon Jérôme Bloch. C'est surtout en raison de toutes les innovations intégrées dans ces appareils.
Il faut comprendre aujourd'hui que notre nouvelle génération Fold 8 Ultra, Fold 8 et Z Flip 8, il y a des améliorations technologiques. Il y a des améliorations au niveau de la batterie. Il y a des améliorations au niveau de l'écran. Aujourd'hui, les écrans du Fold 8 et du Fold 8 Ultra, c'est des écrans qui ont donc des éléments en titane. Donc, tous ces éléments en termes d'innovation hardware contribue aussi à faire que les prix augmentent légèrement.
Le constructeur qui a d'ailleurs fait le choix de conserver la même quantité de mémoire vive que sur les précédents modèles sans rogner la fiche technique. Un choix que Samsung peut se permettre sachant qu'il fait lui-même partie des trois plus grands fabricants mondiaux de mémoire vive.
Good morning business. French Tech.
Je vous l'ai dit ce matin, il y a beaucoup de résultats. Bonjour Pascal Dalloz.
Bonjour.
Directeur général de Dassault Systèmes avec nous, éditeur de logiciels de conception, de modélisation. Vous présentez aujourd'hui les résultats du deuxième trimestre avec un chiffre d'affaires total en croissance de 4%. Les marchés ont l'air d'apprécier, plus 1% en préouverture en bourse ce matin. Expliquez-nous ces résultats, par quoi ça a été porté cette augmentation ?
C'est des résultats solides, hein, vous l'avez signifié. Il s'est porté par la bascule du mouvement vers l'abonnement. Comme vous savez, tous les éditeurs de logiciels progressivement vont vers des modèles d'abonnement du logiciel. Et ce trimestre-là, notre croissance des abonnements est de plus 8%.
Plus 8%, effectivement, croissance aussi de 14% du chiffre d'affaires logiciel 3D expérience et cloud. C'est soutenu par les industries manufacturières.
Exactement. Hein, ça peut paraître une surprise, mais ouais. C'est résilient. Ce sont des industries qui, de toute façon, ont besoin d'investir pour se transformer, et la plateforme 3D Experience est la fondation pour eux pour accélérer ces transformations.
Les prévisions pour la suite de l'année, on est à la moitié de l'année 2026, vous espérez quoi pour la fin de l'année ?
Nous confirmons nos objectifs hein, tels qu'ils avaient été énoncés, c'est-à-dire une croissance entre 4 et 6%.
On va évidemment parler aussi de cette confirmation, vous l'avez confirmé ce matin, l'acquisition d'Aris Global qui travaille dans les sciences de la vie. Expliquez-nous déjà ce que fait cette plateforme, cette société.
Cette plateforme, vous savez, quand vous mettez un médicament sur le marché, vous avez des obligations réglementaires et de sécurité de suivre tous les effets adverses qui ont pu être répertoriés dans le monde suite à la prise de ce médicament. Donc cette société, ce qu'elle fait, elle donne la possibilité aux agences de santé et aux industriels de la pharma et de la biotech et des équipements médicaux de suivre tous ces effets adverses. C'est important. C'est important pourquoi ? Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais la troisième cause de mortalité au monde, c'est l'erreur médicale. Mmh. Donc plus on peut capitaliser ces informations et les faire remonter dans le cycle d'innovation, plus on peut anticiper tous ces effets adverses. Et c'est ce que fait Harris Global.
Est-ce que vous allez leur rapporter, vous, vous allez nous le dire, Harris Global dit que les organisations des sciences de la vie fonctionnent avec des systèmes fragmentés et des environnements de santé déconnectés. Et c'est là que vous allez intervenir.
Exactement. Et vous l'avez justement, très justement dit, l'IA joue un rôle clé dans cette industrie-là.
Oui.
Parce que ce sont des processus qui sont expérimentaux et donc la donnée collectée est au cœur. Or, aujourd'hui, la donnée, elle est dans les systèmes de recherche, la donnée scientifique, dans les systèmes cliniques, le test, ou dans les systèmes réglementaires, typiquement Harris Global, et également dans les systèmes de production. Notre plateforme, elle est en train d'unifier tout ça avec un système d'IA et qui permet, globalement, quand il y a un problème de qualité, de comprendre si ça vient de la formulation, si ça vient d'une déficience sur la production. Donc ça permet d'avoir cette unification au sein de l'entreprise.
On parle d'un montant d'1,8 milliard, c'est ça ?
Oui, de dollars.
De dollars, évidemment. Les sciences de la vie, c'est un relais de croissance intéressant pour vous Dassault Systèmes ?
Ça l'est, pour une raison très simple. Vous savez, cette industrie a un vrai paradoxe. C'est celle qui dépense le plus en recherche et développement.
Ouais.
Et c'est le coût moyen de développement d'une molécule, c'est 2 milliards de dollars. Et il faut que vous ayez en tête qu'une molécule sur 10 arrive sur le marché. Donc, ils dépensent beaucoup et finalement, le résultat peut paraître un peu décevant. La raison, elle est très simple, c'est que c'est une industrie qui fait que de l'expérimentation physique. On teste sur l'homme. On a des machines dans les laboratoires qui font toutes les combinaisons possibles sur les molécules. Ce que l'on propose, c'est de remplacer ce test physique par le test virtuel. Ça permet de raccourcir le cycle, ça permet d'abaisser le coût et ça permet d'être, en gros, de faire toutes les validations dans le monde virtuel avant de le faire dans le monde physique.
Gagner du temps et de l'argent, absolument essentiel dans la santé, effectivement. Je voudrais qu'on parle très très vite de la stratégie numérique européenne en pleine construction. Qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui, vous qui avez un regard global évidemment sur ce secteur, pour rivaliser à armes égales avec nos concurrents internationaux ? Qu'est-ce qui pourrait nous donner l'avantage ? L'IA, justement, c'est ça, nous faire avancer ?
L'IA est un des axes, mais il y a une spécificité en Europe. Ce n'est pas un hasard si la plus grande société d'ERP au monde, elle est européenne. Si la plus grande société de logiciels industriels est européenne, Dassault Systèmes. Mmh. C'est quoi notre spécificité ? C'est le croisement entre les métiers de l'industrie et la technologie. Et c'est là où on fait la différence. Les grands blocs, qu'ils soient chinois ou américains, ils sont très forts pour faire des technologies horizontales qui servent les marchés grand public. Nous, on a la possibilité de se différencier et on a l'écosystème aujourd'hui pour le faire. C'est là, à mon avis, où l'Europe doit se focaliser.
On dit beaucoup dans le monde du travail que l'intelligence artificielle est une menace. Vous, avec votre type d'activité, est-ce que ça constitue une menace ou pas réellement, finalement ? Parce que dans le logiciel, on pourrait se dire c'est un des premiers secteurs touchés, mais en fait, pas tant que ça.
Bah, regardez, donnez-moi un pays où on ne dit pas qu'on manque d'ingénieurs. Dans tous les pays. Donc pour nous, l'IA, c'est une façon d'augmenter l'ingénieur, d'avoir plus de capacité à inventer, produire, certifier. C'est ça que permet de faire l'IA. Vous savez, les métiers évoluent, mais au fond, la connaissance et les savoir-faire industriels, ils restent. Un bon exemple de ça, c'est regarder l'automobile. Et Renault est un bon cas de cela. Difficulté sur un marché historique,
oui.
Repositionnement dans le marché des drones civils. Pourquoi ? Parce que Renault sait produire des objets à grande échelle, d'une certaine complexité et dans des métiers réglementés. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont utilisé toute cette connaissance-là pour la mettre au service d'autres choses. Donc, encore une fois, les métiers évoluent, mais les savoir-faire industriels, ils restent. Et c'est ça le cœur de métier de nos clients.
J'ai vu 41% de vos investissements chez Dassault Systèmes aller en recherche et développement. Vous travaillez sur quoi, par exemple, pour... futur.
On travaille sur aider à comprendre les nouvelles molécules dans le domaine alimentaire, par exemple. Un bel exemple, on travaille avec la société Bell, que vous connaissez tous,
oui. Hein,
les fromageries Bell, le Babybel. Cette entreprise a entrepris depuis bientôt plusieurs années un grand programme scientifique pour substituer la protéine animale par de la protéine végétale. C'est facile à dire, c'est assez compliqué à faire, parce qu'à la fin, il faut que la texture du Babybel soit le même, son goût soit le même, que ça obéisse à des règlements sur la toxicité. Donc comment on fait ? On prend tous ces savoirs qui ont été accumulés, on les a virtualisés, on les met dans des modeleurs et dans des machines d'IA qui regardent automatiquement toutes les combinaisons possibles sur les protéines végétales afin de reproduire le plus possible tout ce que je vous viens de vous dire. Voilà un exemple concret de un nouveau secteur, un nouveau domaine pour Dassault Systèmes.
Merci beaucoup Pascal Dalloz d'être venu nous voir ce matin, directeur général de Dassault Systèmes. Dans un instant, on parle de sécurité, on parle d'entrepreneuriat aussi avec Thierry Orozco qui est mon invité dans Parole de Patron. À tout de suite.
Good morning business, Parole de Patron.
Thierry Orozco est avec moi ce matin, directeur général d'Obvious Technologies. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec moi sur ce plateau. Obvious Technologies, éditeur français en cybersécurité, qu'est-ce que vous faites? Alors,
d'abord, nous ne sommes pas en cybersécurité, nous avons un logiciel qui fait de la sécurité.
D'accord.
Alors, faire de la sécurité, ça veut dire que, par exemple, vous avez un espace, et cet espace, vous voulez le sécuriser. Sécuriser, ça veut dire quand il se passe un incident, ben, vous voulez d'abord savoir qu'il y a un incident, et ensuite le gérer le plus efficacement et le plus vite possible. Mmh. Et nous, on va aider les gens à être de plus en plus rapides dans la compréhension, dans l'analyse, dans la décision et dans l'action. Le temps est un facteur déterminant. Malheureusement, les pompiers le montrent aujourd'hui. Plus on intervient vite sur le début d'un incident, moins il prend d'ampleur.
Pour quel type de client vous travaillez, par exemple?
Alors, on a trois grands types de clients. On a un client qui, on va dire, les forces de police, qu'elles soient en France régaliennes ou ailleurs non régaliennes. Par exemple, pour surveiller des villes. On a des clients qui sont dans l'événementiel. Par exemple, ceux qui veulent organiser une Coupe du Monde de foot, des Jeux Olympiques. Et puis, on a des clients qui sont les gens qui ont des sites sensibles. En France, on appelle ça des opérateurs d'importance vitale.
Donc, on est là sur des événements physiques, en réalité.
Alors,
et une surveillance physique.
Alors, on est sur de la surveillance qui va mêler toutes les données qui contribuent à la compréhension de la situation. Ça peut être évidemment du physique, mais ça peut être aussi de la data qui va apporter autre chose que du purement physique.
Ce qui est intéressant, c'est que votre expérience d'avant vous a énormément aidé, vous aide énormément dans cette vie d'entrepreneur. Vous êtes un ancien du GIGN, un ancien militaire. Déjà, comment vous êtes passé de cette vie-là, cette ancienne vie, à cette envie d'entreprendre?
Alors, c'est très simple. Quand j'ai commandé le GIGN, après, je me suis dit, j'ai eu une vie passionnante, j'ai fait des choses extraordinaires. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et là, je me suis dit, pourquoi pas aller voir dans le privé et tenter une autre aventure, simplement.
Qu'est-ce que cette vie d'ancien du GIGN, on le voit un peu évidemment, mais vous apporte aujourd'hui dans cette activité chez Obvious Technologies?
C'est la compréhension du besoin. Vous voyez, par exemple, je ne suis pas du tout informaticien, je ne suis pas du tout dans les lignes de code, donc j'ai plutôt tendance à dire oui à la technologie, mais à condition qu'elle soit transparente et qu'elle soit intuitive pour moi. C'est ce que j'essaye de faire en traduisant la technologie au profit du besoin de manière simple et efficace.
L'intervention de l'IA dans votre secteur, ça prend une place prépondérante, évidemment, dans la surveillance peut-être des foules dont vous parliez tout à l'heure, sur des gros événements par exemple?
Alors, l'IA est de plus en plus présente. Alors, pour résumer, on va dire que jusqu'à présent, les logiciels aidaient par exemple à dire il se passe quelque chose, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et aider à le faire. Puis peu à peu avec l'IA on voit arriver, ça vous aide à dire non seulement ce que vous devez faire, mais où vous devez le faire. Et là maintenant, on voit que ça arrive à dire comment vous devez le faire. Donc peu à peu, on a une aide et pratiquement une substitution à l'action humaine qui fait forcément gagner du temps et réfléchir avec de plus en plus d'informations tout en étant de moins en moins lent.
Avec l'évolution de la technologie, on le sait en Europe, on réglemente énormément pour protéger les citoyens, protéger les données également. Est-ce que ça n'entrave pas votre business à vous? Et est-ce que vous allez dans d'autres pays pour peut-être avoir un autre environnement réglementaire peut-être plus favorable aussi? Parce qu'en France, c'est extrêmement contraignant.
Alors en France, on est RGPD, donc on arrive parfaitement à développer des solutions qui sont conformes à la réglementation.
Oui.
Après, il y a des réglementations dans d'autres pays. Nous sommes très présents dans les pays du Golfe. On s'adapte à leur législation, à ce qu'ils sont autorisés à faire et ce qu'ils sont interdits de faire. Et à partir de là, nous, on s'adapte. Certes, la technologie permet de faire des choses ne sont pas permises par des contraintes réglementaires ou législatives. Mais après, on s'adapte.
Merci beaucoup Thierry Rosco d'être venu sur mon plateau. Directeur général d'Obvious Technologies dans la matinale de l'économie. Dans un instant, la situation au Moyen-Orient, les deux fronts qui se sont ouverts désormais. Il y a évidemment ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, mais aussi ce qui se passe entre les Houthis du Yémen et l'Arabie Saoudite. Et là-dedans, Donald Trump commence à reparler de l'éventualité d'un accord. On voit ça dans le journal de 8h30. À tout de suite.
Good morning business. Le journal.
8h30, les titres, Léo.
Et la publication à l'instant de Total Energy, 6 milliards de dollars de résultats nets ajustés sur le trimestre qui vient de s'achever. On voit ça avec Étienne Braque dès le début de ce journal. Les Houthis ont frappé des pétroliers saoudiens. Les États-Unis poursuivent aussi leurs attaques, mais Donald Trump relance la perspective d'un accord. C'est ce que veut l'Iran, selon lui, on l'entendra. Et puis Pékin menace la France de représailles après la loi anti-fast fashion. C'est donc la publication de la matinée, pas de surprise pour Total Energy qui réalise un trimestre et un semestre exceptionnel. Étienne Braque, 11,4 milliards de dollars de résultats nets ajustés sur les 6 mois, ça fait plus 47% par rapport à l'an dernier.
11 milliards de profits en 6 mois, dont 6 milliards au deuxième trimestre, c'est conforme aux attentes des analystes. Total Energy est pile dans les clous, les analystes avaient vu juste. Total Energy a bien sûr profité au deuxième trimestre du bond important du baril de pétrole, puisqu'au deuxième trimestre, il était en moyenne à 103 dollars contre 81 sur les trois premiers mois de l'année. Total Energy, comme les autres majors, notamment américaines, a réalisé ses profits, notamment sur l'activité aval, avec notamment des marges de raffinage qui étaient en très forte hausse sur la deuxième partie de l'année. Et puis, bien sûr, Total Energy dispose de nombreux forages. Donc, il est bien sûr sur toute la chaîne de production. Contrairement à l'activité pétrole, c'est plus compliqué pour l'activité gaz dans le deuxième trimestre, avec notamment une activité gaz qui est en repli, contrairement au premier trimestre. Après la publication de ces résultats, vous avez un groupe qui annonce ce matin augmenter son dividende de 5,9%. Vous aurez un dividende de 90 centimes par action qui sera versé. Et puis l'autre priorité du groupe, c'est le désendettement. C'était un sujet l'an dernier. Et donc le groupe compte bien, profiter de ses résultats semestriels pour continuer de se désendetter. Vous avez notamment une dette qui a baissé de plus de 3 milliards d'euros au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre. Le titre est en très légère hausse en préouverture de 0,5%.
Merci Étienne Braque. La publication aussi d'Edenred qui relève ses objectifs de résultats bruts pour cette année après avoir dégagé 214 millions d'euros de bénéfices nets. En recul de 7,5%, mais c'est moins que prévu par les analystes, dans un contexte toutefois de changement réglementaire pour le groupe, notamment au Brésil et en Italie. Écoutez ce que nous en dit Bertrand Dumazil, patron d'Edenred, ce matin sur BFM Business.
On a des changements régulatoires, donc pour nous 2026 c'est une année de transition. La régulation n'avait pas changé depuis une vingtaine d'années, un nouveau cadre a été fixé, ce qui a l'avantage de donner de la visibilité, et maintenant on peut se redéployer dans ce nouveau cadre, mais dans un premier temps il y a un reset qui est fait et on est dans cette phase de transition en 2026 pour juste une partie de nos activités. Ces deux pays représentent 20% de notre chiffre d'affaires, donc on absorbe le choc, mais on se prépare à de la bonne croissance pour les années à venir.
Et le groupe Renault qui dévoile aussi ses résultats commerciaux. Ce matin, ses ventes sont quasiment stables, moins 0,4%, c'est-à-dire juste sous le 1 200 000 véhicules vendus sur les 6 premiers mois de l'année. Mais la marque Renault reste la numéro 2 sur le continent européen. Ses ventes grimpent de 2,6%, portées par la R5, qui est la voiture électrique la plus vendue en Europe sur son segment.
Les frappes américaines se poursuivent en Iran, Léo.
Les États-Unis disent viser des cibles militaires de Téhéran, qui répliquent toujours sur les pays du Golfe, principalement le Koweït, une nouvelle fois ce matin, mais c'est après 12 jours consécutifs maintenant. Donald Trump, qui garde tout de même un ton très virulent, commence doucement à reparler d'un accord. C'est en tout cas le souhait des Iraniens, dit-il hier soir en meeting depuis l'État de Géorgie.
The Islamic Republic of Iran.
La République islamique d'Iran, et si je l'appelle comme ça, c'est parce que, croyez-moi, ils sont frappés très durement et ils veulent conclure un accord. Mais je dis qu'ils ne sont pas prêts à conclure un accord, parce qu'à chaque fois qu'ils concluent un accord, ils veulent le changer. Ils ne sont pas prêts, ils seront prêts très bientôt, et malgré tout cela, tout continue. La bourse a atteint 73 records historiques depuis l'élection, pensez-y.
Mais pour le coup, ce matin, c'est le pétrole qui poursuit son chemin vers les records. On est au plus haut depuis le début du mois de juin, $96 le baril de Brent, alors qu'il y a maintenant la confirmation qu'un nouveau front s'est ouvert dans cette guerre. Les Houthis ont attaqué deux pétroliers saoudiens en mer Rouge ces dernières heures au moyen de drones et aussi de missiles, revendiquent-ils, et leur porte-parole menace dans la foulée l'Arabie saoudite de nouvelles attaques.
Les forces armées poursuivront leurs opérations navales contre l'ennemi saoudien et continueront d'imposer le principe de blocus contre blocus. Elles affirment également à l'ennemi saoudien que tout acte insensé ou toute agression visant notre pays se heurtera à des opérations majeures au cœur de son territoire et que les conséquences seront graves pour lui par la volonté et la puissance de Dieu.
Et dans ce contexte, le scénario s'assombrit pour l'économie, c'est ce que dit la Banque mondiale. Elle craint que la croissance n'atteigne qu'1,3% cette année dans le monde. À cause déjà de l'inflation, aussi des taux d'intérêt, ça inquiète sérieusement l'économiste en chef de l'institution, Nathan Cocampo.
Oui Léo, trois scénarios avaient été mis sur la table et c'est bien le troisième, le plus pessimiste, le scénario du pire qui se concrétise pour Indermeet Gill. Le conflit au Moyen-Orient dure, entre dans son sixième mois et risque de relancer fortement l'inflation. 4,5% attendu cette année et ce avec une croissance mondiale faible, 1,3% contre 2,9% l'an dernier. Une crise de la dette sans précédent menace sur fond de remontée des taux directeurs. Les États, déjà fragilisés notamment depuis le Covid, risquent d'être confrontés à de graves difficultés pour assurer le service de leur dette. Si on prend les pays à faible ou moyen revenu, 4 pays sur 10 ont déjà basculé ou pourraient basculer dans une situation de surendettement selon l'institution, soit 32 pays comme la Somalie, le Soudan, le Ghana, un nombre qui pourrait vite grimper si les taux remontent.
Et les perturbations du commerce mondial ne vont pas aider, Nathan.
Non, Sandra, le retard dans les livraisons d'engrais, d'hélium, de soufre, indispensables à l'agriculture, risque d'aggraver l'insécurité alimentaire dans ces pays et déclencheront d'autres effets secondaires, notamment une hausse des taux d'intérêt et donc un poids de la dette trop élevé selon l'économiste en chef. Le Pakistan vient par exemple de demander aux États-Unis un mécanisme de stabilisation de change de 10 milliards de dollars. L'économiste en chef s'attend à ce que certains pays demandent des annulations de dettes au cas par cas et indique aussi que pour l'instant, les plus grandes économies, la Chine, les États-Unis, l'Inde, restent relativement épargnées des effets directs de cette guerre.
Merci Nathan. Dans l'actualité également, la Chine qui menace la France, Léo.
Oui, Pékin promet des représailles à Paris après le vote de la loi anti-fast fashion le mois dernier. Elle doit entrer en vigueur le 1er septembre. Et alors, selon la Chine, c'est une barrière commerciale qui est clairement érigée contre elle, Valentine Adbi.
Pour Pékin, cette loi française n'est pas une simple mesure environnementale. Le ministère chinois du commerce dénonce une réglementation discriminatoire qui, selon lui, cible uniquement les plateformes chinoises comme Shein ou Temu. Il estime que la France utilise des arguments de protection de l'environnement pour mettre en place des mesures d'exclusion contre ces entreprises. L'espagnol Zara ou le français Kiabi, par exemple, passent entre les mailles du filet. En l'occurrence, une taxe pouvant atteindre jusqu'à 20 euros par article en 2030 sur certains vêtements produits en série, ainsi qu'une interdiction de publicité pour les marques concernées. La Chine parle de non-respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce et met en garde Paris. Si les intérêts des entreprises chinoises sont menacés, des contre-mesures seront prises.
8h38, les marchés. On est dans le rouge à 20 minutes de l'ouverture, Étienne Brack.
Très légère baisse de 0,2% en préouverture. Total Energy progresse de 0,7% après la publication de ses résultats. En plus, bien sûr, de ses résultats qui sont en ligne avec les attentes. Le titre est bien sûr soutenu ces dernières heures par ce fameux baril de pétrole qui est à $95. Le Brent qui est sur des plus hauts de début juin. Énormément de résultats d'entreprise depuis hier soir. Dans l'ensemble, il n'y a pas de grande catastrophe. Les résultats sont plus ou moins en ligne avec les attentes. Petite déception du côté de l'Italie chez Moncler, c'est une publication qu'il faut suivre bien sûr juste avant LVMH la semaine prochaine. Chiffre d'affaires en hausse de 5% à taux de change constant au deuxième trimestre, mais seulement plus 4% aux États-Unis. Et puis surtout, une petite déception également sur l'Europe, puisque vous avez eu moins de touristes venant du Moyen-Orient en Europe au deuxième trimestre avec le conflit au Moyen-Orient. Et bien sûr, ça pénalisait Moncler sur ses ventes au deuxième trimestre. Nestlé a publié ses résultats ce matin. Le groupe qui prévoit de récupérer 3 milliards de dollars
Picard en cédant la moitié de son activité eau. Ça contient notamment les marques Perrier ou encore San Pellegrino. Croissance des ventes légèrement supérieure aux attentes, 3,6% en organique au deuxième trimestre pour Nestlé. Puis des résultats également suivre sur Dassault Systèmes, chez BNP Paribas ou encore sur Thales. Thales qui affiche des résultats en forte baisse, qui est pénalisé notamment par le contrat de Rheinmetall sur des frégates. Ça l'impacte directement, mais le groupe confirme ses objectifs pour cette année.
Merci beaucoup Étienne Brack. On se retrouve dans un instant pour le club de la Bourse avec Thibaut Prébet, Romain Aumont pour faire un débrief de tout ce qu'on a entendu ce matin. Mais avant cela, l'international.
Good morning business, la matinale de l'économie.
Et on vous parle ce matin de la fonte des glaces qui est en train de transformer l'Arctique en nouvelle route du commerce maritime mondial. Nouveau terrain d'affrontement aussi entre la Russie, la Chine et les États-Unis. Tous cherchent désormais à renforcer leur position dans cette région devenue ultra stratégique. Explication Annalisa Capellini, Mathieu Jolivet.
Mathieu, on va parler aujourd'hui d'une zone géographique qui devient ultra stratégique, dont on a beaucoup parlé pendant cette première moitié d'année 2026, et où tous les états-majors du monde tentent de renforcer leur position, c'est la région arctique.
Ouais, et pour bien comprendre ce qui se passe, en octobre dernier, il y a eu une première mondiale. Une compagnie chinoise, l'Arctic Express, a envoyé pour la première fois un porte-conteneur qui a relié la Chine à l'Europe en passant par le nord, c'est-à-dire par la route arctique. Ce raccourci, il est permis par la fonte des glaces, et il divise par deux le temps pour relier la Chine à l'Europe. Et ça, c'est un symbole géopolitique très fort. L'Istanbul Bridge, c'est le nom de ce porte-conteneur, a mis seulement 20 jours pour relier la Chine à l'Europe, deux fois moins que s'il était passé par le canal de Suez. Comment il a fait ? Bah, tout simplement en passant par le détroit de Bering, puis en prenant un raccourci par l'Arctique.
Tu l'as dit, en fait, ce qui a permis à ce navire de prendre cette route, c'est bien la fonte des glaces. Il faut comprendre qu'il y a 10 ans, cette route ne pouvait être empruntée que 2 mois par an. Et encore, il fallait être accompagné d'un brise-glace russe pour sécuriser le tracé. Sauf que l'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que le reste du globe. Et donc aujourd'hui, 10 ans plus tard, eh bien, la route est ouverte 10 mois par an. Le potentiel est donc énorme, surtout quand on sait que ça offre une alternative au canal de Suez, où transitent quasiment tous les conteneurs qui relient aujourd'hui la Chine à l'Europe. C'est 1 conteneur sur 5 dans le monde. Et il y a un acteur incontournable dans la région, c'est la Russie, dont une partie des frontières longe l'Arctique. Donc tout navire qui passe par cette zone-là traverse une zone économique exclusive russe, une ZEE russe. Autrement dit, tout navire qui veut passer par la route arctique doit obtenir une autorisation par les autorités russes et doit souvent être escorté par un brise-glace russe.
En tout cas, les États-Unis ne comptent pas rester en marge de cette zone d'influence arctique. Le Pentagone redoute fortement une coopération sino-russe. Il craint de voir émerger une nouvelle autoroute commerciale et militaire qui échapperait au contrôle occidental, d'où la montée en puissance qui est discrète mais qui existe, des patrouilles américaines et alliées dans cette zone arctique. Donald Trump a même signé en octobre dernier un décret qui autorise la construction de brise-glace américains à propulsion nucléaire pour renforcer la présence et la sécurité dans cette zone arctique.
C'est en tout cas toute l'intense activité stratégique menée par les Russes et par les Chinois dans la région qui motive le président américain Donald Trump à prendre le contrôle territorial du Groenland. C'est une province du Danemark, un territoire autonome. C'est l'autre grand dossier de l'Arctique en ce moment. Donald Trump, qui s'est empêtré pendant des longs mois en Iran, ne parle plus désormais ouvertement du Groenland, mais le dossier pourrait très très vite revenir sur le devant de la scène. Donald Trump a déjà des bases militaires historiques sur l'île, mais ça ne lui suffit pas, ça ne lui suffit plus en tout cas. Pour lui, le Groenland est clairement dans son hémisphère occidental, qui va du Canada à la Terre de Feu. C'est une zone où Donald Trump se donne le droit d'intervenir sur tout sujet qui peut attenter à la sécurité des États-Unis. Et cette région arctique, selon lui, en fait clairement partie.
Restez avec nous dans la matinale de l'économie. Dans un instant, le club de la Bourse, c'est tout de suite.